Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue, merci de votre fidélité à Appel sur l'actualité. Ravi de vous retrouver cette semaine dans votre émission de compréhension, d'explication de l'actualité et de débat. Dans la deuxième partie de l'émission tout à l'heure, nous parlerons de la Côte d'Ivoire. La parenthèse du deuil se referme après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, porté en terre vendredi à Korogo, la ville dont il était originaire. Le Premier ministre devait porter les couleurs du RHDP le 31 octobre prochain. Il était le dauphin désigné d'Alassane Ouattara. Alors que va-t-il se passer désormais? Que va faire le chef de l'État? Doit-il revenir sur sa promesse, redescendre dans l'arène, briguer un troisième mandat? Ou au contraire, choisir un nouveau dauphin? Qui, dans ce cas, serait, selon vous, la bonne personne? Nous attendons vos réactions. 33 9 693 693 70. Vos messages sur WhatsApp, ils sont nombreux. 33 6 89 28 53 64. Et bien sûr, quand vous le voulez, sur notre page Facebook, vous réagissez par centaines. Merci de votre fidélité et de votre apport à l'antenne de RFI. Mais avant cela, comme chaque jour, la rédaction se mobilise pour répondre aux questions que vous nous posez sur l'actualité. Et on commence par rejoindre Trésor, qui est à Kisangani, en plein cœur de la RDC, province de la Tchopo. Bonjour Trésor.
Bonjour Monsieur Juan Gomez. Bonjour Monsieur François Mazet.
Oui, alors on peut saluer Juan, qui profite de son premier jour de vacances, mais je suis ravi d'être avec vous Trésor. L'actualité chez vous, c'est cette démission qui fait débat depuis une dizaine de jours, celle de Benoît Luamba, le président de la Cour constitutionnelle, parti en Belgique pour raisons médicales. Et en son absence, sa démission a été annoncée dans une lettre dont il conteste être l'auteur. Forcément, cela vous interpelle Trésor. Allez-y, quelles sont vos questions?
Effectivement, Félix Tshisekedi a pris acte de la démission du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, mais depuis Bruxelles où se trouve pour besoin médical, celui-ci demande avoir déposé sa démission. Qu'est-ce que sait-on de cette histoire de lettre de démission? Qui l'aurait écrite et pourquoi?
Eh bien, pour répondre à vos questions, on va appeler notre correspondant à Kinshasa. Bonjour Pascal Moulégua.
Bonjour François Mazet.
Merci de répondre aux questions de Trésor. Déjà, Pascal, que sait-on de cette histoire de lettre de démission? L'a-t-il vraiment écrite?
Ouais. Alors, c'est qu'on sait que la lettre a bel et bien été écrite par le juge président. Du moins, c'est ce que dit la présidence de la République. Une copie avait d'ailleurs été réservée au chef de l'État. Alors, la lettre avait été rédigée donc ici à Kinshasa par Benoît Luamba, mais lui, il a démenti une fois en Belgique où il se trouve pour raison médicale. Alors, Félix Tshisekedi, ou encore les 7 juges de la Haute Cour, ont-ils été saisis sur base d'une fausse lettre? En tout cas, l'entourage de Benoît Luamba a dans un premier temps parlé d'imitation de la signature du juge président, puis des anomalies dans les numéros des références de la lettre de la démission, mais certains juges que nous avons réussi à approcher ont confirmé l'authenticité du document.
Donc Pascal, on se demande pourquoi le président Félix Tshisekedi a pris acte de cette démission que Benoît Luamba, lui, réfute avoir posée.
Alors, il n'appartient pas, dans un premier temps, au président de prendre acte ou pas, c'est du moins ce qu'ils disent ses conseillers. Lui, il est informé ou alors notifié pour des dispositions utiles, car c'est bien lui le magistrat suprême. Ce sont les 7 de 8 juges restants qui avaient siégé et examiné les raisons avancées par Benoît Luamba pour sa démission. Ils ont finalement pris acte de cette démission controversée. Et le 13 juillet dernier, ils ont sans tarder saisi le président Félix Tshisekedi, qui en a pris acte. Alors, depuis Bruxelles, comme vous l'avez dit, Benoît Luamba est resté taisé et son sort est réglé à Kinshasa. Son entourage y voit un coup de force d'un président qui veut instrumentaliser la Cour constitutionnelle justement pour prendre les dessus sur le Parlement dominé par les camps de l'ancien président Joseph Kabila. Benoît Luamba et les juges justement qui avaient proclamé la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2018, et c'est malgré le fait que les résultats des élections avaient été contestés le juge-président avait été mis sous sanction des États-Unis pour corruption et entrave à la démocratie. Lui, comme la plupart des autres juges d'ailleurs de la Cour, était jusqu'ici considéré comme pro-Kabila, même si la Cour avait récemment tranché une fois en faveur du nouveau président, Félix Tshisekedi.
Conclusion, Pascal Moulégois, est-ce qu'on peut dire que la page Benoît Luamba est tournée à la Cour ?
Administrativement, oui, c'est affirmatif, parce que la semaine dernière, déjà, l'Agence nationale des renseignements, l'ANR, qui relève de la présidence, a d'abord perquisitionné les locaux de la Haute Cour. Et vendredi, le chef de l'État a nommé 3 nouveaux juges, dont les remplaçants de Benoît Luamba comme membres. Parce qu'avant d'être président, il est d'abord membre de la Cour. Alors, les démissionnaires avaient été nommés par la présidence sous Joseph Kabila, les postes de président de la Haute Cour restent encore vacants. Il appartient alors aux 9 juges de se réunir et de désigner celui qui sera le nouveau président de la Cour. C'est ce que du moins prévoit la loi. Dans cette cour, 3 des 9 juges sont nommés par la présidence. Il y a 3 autres qui sont ici du Parlement. Il y a 3 autres qui sont nommés par les conseils supérieurs de la magistrature. Alors, on comprend que cette cour, c'est une institution clé pour le pouvoir actuel. Et pour le moment, Félix Tshisekedi chercherait à jouer à l'équilibrisme.
Merci Pascal Moulégois d'avoir pris le temps de répondre à Trésor, notre auditeur de Kisangani. Trésor, est-ce que vous avez pu entendre les explications de Pascal et est-ce que c'est plus clair pour vous désormais ?
Oui, merci beaucoup à Pascal Moulégois et merci vraiment à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité sur cette affaire.
Merci Trésor, bonne journée à vous à Kisangani. Une autre question d'actualité africaine et d'actualité d'Afrique centrale. On va sur la côte cette fois à Libreville où nous attend Ibrahim. Bonjour.
Bonjour François Mazé.
Soyez le bienvenu Ibrahim, on a entendu sur l'antenne de RFI le porte-parole de la présidence gabonaise assurer que les relations franco-gabonaises se portaient bien, que tout allait pour le mieux, et ce à la suite d'un commentaire d'un député français qui a beaucoup fait jaser au Gabon. Dites-nous ce que vous voulez savoir sur ce sujet Ibrahim.
Merci de m'avoir donné la parole. La semaine dernière, un député français déclarait qu'Ali Bongo, le président gabonais, n'était plus en mesure de diriger le pays depuis son AVC. Quelques jours après, une visite du président togolais était annoncée, puis être annulée sans raison. Ma première question est celle-ci. La visite du président togolais a-t-elle un lien avec la sortie du député ? Cette annulation a-t-elle un lien avec effectivement, n'est-ce pas, la sortie du député ?
Oui, des précisions que l'on va demander à notre correspondant à Libreville. Bonjour Yves-Laurent Goma.
Bonjour François Mazé.
Alors effectivement, Yves Laurent, le 13 juillet dernier, Fornia Singbé devait venir à Libreville, être, je crois, le premier chef d'État à visiter le Gabon depuis la crise sanitaire. Finalement, annulation de dernière minute. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le sujet et quelles sont les explications officielles ?
Bon, voilà, notre auditeur Ibrahim demande si l'annulation avait un lien avec le propos du député. Bon, il faut dire à Ibrahim qu'il n'a pas très bien suivi la chronologie des faits et il a raison de poser cette première question. En fait, les propos du député Bruno Fox n'ont pas un lien avec l'annulation de la visite annoncée du président togolais au Gabon. Bien au contraire, les activistes et même certains opposants gabonais ont soupçonné le pouvoir de Libreville d'avoir fait appel à Fornia Singbé à Libreville pour montrer que le chef de l'État gabonais, Ali Bongo, était bien en forme et bien à son poste de travail. Je rappelle, pour être précis, que la déclaration du député français a été faite le 8 juillet. L'annonce de la visite au Gabon du président togolais est intervenue 3 jours plus tard. D'où l'explication d'une éventuelle, je dis bien éventuelle, opération de com montée par le palais présidentiel de Libreville pour démentir le député français.
Alors justement, Yves Laurent, à quoi devait-elle servir cette visite de Fornia Singbé ?
Bon, selon le communiqué officiel, Fornia Singbé et Ali Bongo devaient échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre leurs deux pays. Alors là, c'est un langage diplomatique. Toujours est-il que Fornia Singbé est le chef de l'État qui séjourne le plus régulièrement possible au Gabon. En 2 ans, il a effectué près de 10 visites officielles à Libreville. Et pour le raté de la dernière fois, le porte-parole de la présidence gabonaise a évoqué un changement urgent de l'agenda du président togolais. un changement signalé à Libreville par le protocole togolais quasiment à la dernière minute.
Voilà, Ibrahim, vous avez une autre question pour Yves-Laurent Goma.
Oui, ma question est celle-ci. Comment ont réagi les autorités gabonaises suite à la remarque du député?
Bon, si je dois répondre directement à Ibrahim, je dois dire qu'il y a eu deux niveaux de réaction. Il y a eu d'abord les membres du gouvernement à travers Twitter ou Facebook. Quasiment tous ont dénoncé une intrusion dans les affaires intérieures du Gabon. D'autres ont reniflé une volonté de déstabiliser le pays avant de déplorer des propos inadmissibles venant d'un pays ami avec lequel le Gabon entretient des relations privilégiées. Le désormais ancien ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Guilé-Bizet, muté à l'énergie dans le nouveau gouvernement, a même déploré des propos rappelant la période coloniale. Enfin, le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, François l'a rappelé, Jessy Elaé Koga, lui a minimisé en disant que le député Bruno Fosse ne représentait pas la position du gouvernement français. Pour lui, le Gabon et la France entretiennent des bonnes relations et les exemples ne manquent pas.
Merci Yves-Laurent et merci à Ibrahim. Vous étiez tous les deux en ligne de Libreville, Libreville où il est 9h21, direction Dakar maintenant. Bonjour Abou.
Bonjour.
Merci de participer à l'émission. Abou, vous avez des questions sur la conquête de Mars. Allez-y, nous vous écoutons.
Tout à fait. Les Émirats Arabes Unis ont finalement procédé cette nuit au lancement historique de la sonde Espoir vers Mars depuis un centre spatial au Japon. J'aimerais savoir quel est l'objectif de cette mission sur Mars.
Eh bien, on va le demander à François Forger. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes aussi membre de l'équipe scientifique de cette mission émirienne baptisée Espoir. Alors le lancement, François Forger, avait été reporté deux fois. Cette fois, c'est fait dans la nuit. J'imagine que vous l'avez suivi. Merci donc d'être avec nous ce matin pour répondre à la question d'Abou. Quels sont donc les objectifs de cette mission Espoir ?
Oui, merci pour cette introduction. Oui, donc c'est ce qui est intéressant déjà, c'est de se dire que cette mission a des vrais objectifs scientifiques. Hein. Il peut arriver parfois qu'on envoie une mission un peu de prestige ou plutôt une démonstration technologique. C'est un petit peu ce qu'avait fait l'Inde avec sa première mission. Là, il y a une vraie ambition scientifique depuis le début. Et alors, les objectifs sont assez spécifiques. L'idée, c'est d'étudier l'atmosphère et le système climatique, le climat de la planète Mars. Alors pourquoi faire ça? C'est parce que vous savez que Mars, en fait, parmi tous les mondes du système solaire, c'est celui qui ressemble le plus à la Terre, notamment du point de vue atmosphère. Alors c'est une fine atmosphère, c'est une autre composition, c'est du dioxyde de carbone, mais il se trouve que comme elle tourne à peu près à la même vitesse, c'est un petit peu une petite Terre désertique, et on retrouve, vous savez, sous les tropiques, on retrouve des alizés, un vent de mousson, à la latitude de la France, donc plus au nord, ça va être des dépressions, des anticyclones, bref, on retrouve beaucoup de points communs, donc en étudiant Mars, eh bien, on apprend beaucoup aussi sur la Terre, sur comment fonctionne la météorologie en général. Donc, c'est ça l'objectif. Un autre objectif qu'on peut ajouter, c'est que vous savez que Mars ressemble beaucoup à la Terre aujourd'hui, mais elle ressemblait encore plus à la Terre quand elle était jeune, il y a des milliards d'années. À cette époque-là, il y avait des lacs et des rivières, il n'y en a plus du tout aujourd'hui. Et on essaie de comprendre pourquoi Mars n'a pas connu le destin de la Terre. En réalité, on pense qu'elle a perdu son atmosphère dans l'espace, qu'elle s'est échappée pour des raisons compliquées. Et la sonde est aussi équipée avec un instrument pour étudier cela.
Alors, si j'ai bien compris, hein, François Forger, la sonde Espoir va observer Mars d'assez loin, ce qui va lui permettre d'avoir une vue d'ensemble de la planète. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, tout à fait. La grande astuce, si vous voulez, c'est vrai que la sonde Emirati Hawk, c'est pas la première à étudier l'atmosphère de Mars. Et elle n'a pas des instruments révolutionnaires technologiquement. Par contre, la très bonne idée, c'est que toutes les autres missions avaient une orbite souvent tout proche, en ce qu'on appelle une orbite basse, tout proche de la planète, en passant par-dessus les pôles. Donc, on avait des espèces de... On faisait des... Si vous voulez, des petites bandes comme ça, une par une. On n'avait pas une vision complète. Là, c'est une orbite totalement nouvelle, proche de l'équateur. Donc, on voit les pôles, mais de manière très oblique. Mais on voit toute la planète en même temps. On tourne autour à grande distance, entre 20 000 et 43 000 kilomètres de distance. Et ce nouveau point de vue va permettre de compléter complètement si je peux dire, compléter notre vue du climat. Pour l'instant, on a des espèces de trous dans la raquette, si vous voulez. Il nous manque des choses le matin. Notre vision n'est pas complète. Et avec ce nouvel orbite, on va vraiment compléter ce qu'on a vu avant et peut-être faire des découvertes inattendues.
Abou, vous avez d'autres questions pour notre intervenant. Allez-y.
Effectivement. Depuis quand les Émirats arabes unis se sont-ils lancés dans la course à l'espace? Ont-ils autant d'envergure, par exemple, que les Américains, les Chinois ou les Européens, qui, eux, mènent des recherches en la matière depuis plusieurs décennies?
Oui, c'est vrai que dans l'espace, hein, François Forger, il y a les puissances traditionnelles, les États-Unis, la Russie, l'Europe, les émergents, la Chine, l'Inde et maintenant les Émirats. Depuis quand sont-ils entrés dans cette course? Dans quel but et avec quels moyens?
Alors, je vais commencer par la fin, en fait, vous avez raison. Bon, on peut pas encore comparer les Émirats avec les grandes nations. Pour exemple, tout simplement, vous avez vu que la mission a été lancée depuis le Japon. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe des Émirats a choisi un lanceur parmi plusieurs possibilités. Il a été choisi de prendre ce lanceur japonais parce qu'il n'y a pas de base de lancement, il n'y a pas de fusée émiratie. Par contre, les Émirats ont commencé progressivement à s'intéresser à l'espace, en commençant plutôt par la technologie des satellites. Et le grand mot, c'est qu'ils sont encore en mode d'apprentissage en faisant des partenariats. Par exemple, les premiers satellites émiratis, ils ont été faits en partenariat avec la Corée. Cette fois-ci, vous avez vu que le lancement est fait avec le Japon, mais il y a aussi un partenariat avec des équipes américaines. Alors, je dois dire que ces équipes américaines, ce ne sont pas des spécialistes industriels, ce n'est pas l'agence spatiale, la NASA. Non, ce sont des partenariats avec des universités. Donc, il y a quand même une volonté d'apprendre, mais en restant dans le monde universitaire. Donc, il y a une vraie ambition, mais on ne peut pas encore comparer. Vous voyez, il n'y a pas encore de fusée, il n'y a pas encore de... Il y a une petite base spatiale, mais ce n'est que le début.
Oui, les Émirats, François Forger, mettent aussi en avant une forte dimension symbolique à ce premier envoi de sondes dans l'espace.
Oui, encore une fois, c'est de la vraie science, mais c'est vrai que ce symbole, alors il y a un petit symbole lié au fait que on pourra fêter, c'est ce qu'ils disent, hein, et vous savez que l'année prochaine, en 2021, sera le 50e anniversaire, le jubilé du pays qui a pris l'indépendance
de l'unification des Émirats, hein, c'est ça.
Ouais, en 1971. Cela dit, la grande ambition, je dirais, c'est de susciter des vocations au Moyen-Orient et en particulier aux Émirats, parmi les jeunes du Moyen-Orient. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils affichent en premier, d'où cette volonté de faire de la vraie science. Et il faut dire aussi que ce qui est assez intéressant, c'est que l'équipe en général est assez jeune. Et il faut savoir une chose qui, moi, m'a surpris, hein, je suis français, chez nous, vous savez, les maths, la physique, il y a beaucoup d'hommes dans mon monde scientifique, il y a beaucoup d'hommes, tandis que là-bas, depuis toujours, aux Émirats, on a promu l'éducation des femmes, et il y a eu un biais culturel un peu inverse de ce qu'on a en France, en tout cas, qui fait que c'est surtout les femmes qui étudient les maths, la physique, l'ingénierie, l'informatique, ce qui fait que l'équipe scientifique avec laquelle je travaille est essentiellement composée de femmes, à commencer par la responsable scientifique qui est jeune et qui est une femme très charismatique. Ouais. Sarah Amiri. Donc c'est assez intéressant pour nous de voir ce contraste qui m'a un peu surpris au début, puis maintenant je me suis habitué.
Voilà, et le gouvernement des Émirats, hein, sur Twitter a parlé d'un message de fierté, d'espoir, de paix dans le monde arabe. Il faut rappeler que certes c'est le premier envoi émirati dans l'espace, mais en 2019 il y avait déjà eu un spationaute à bord de la station spatiale internationale ASA. Al-Mansouri, François Forger, tant que je vous tiens, j'ai une dernière question pour vous, parce qu'il y a une forte activité, hein, en ce moment autour de Mars, et ce n'est pas le dernier lancement, puisque mercredi, la Chine doit lancer sa mission pour envoyer un rover sur Mars, c'est-à-dire un petit engin tout-terrain. Le 30 juillet, ce sera au tour des États-Unis. Rapidement, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mouvements en ce moment ?
Oui, alors, en fait, il faut savoir que la géométrie du système solaire fait que on peut lancer à moindre coût au niveau de la taille de la fusée et du carburant, on peut lancer un objet vers Mars que tous les 26 mois, un peu plus de 2 ans. Donc, tous les 2 ans, tous les 26 mois, on envoie souvent une sonde. Il y a 2 ans, c'était la mission InSight, qui était une mission américaine avec une forte contribution française. Cette année, il n'y a pas moins de 3 missions. Dans 2 ans, il y aura une mission européenne qui s'appelle ExoMars. Dans 4 ans, une mission du Japon, vous voyez. Alors cette année, il y a 3 missions simultanément. C'est pas vraiment un embouteillage, hein, vous savez, il y a de la place. Mais c'est une belle coïncidence, en effet. C'est une belle année pour envoyer des missions.
Voilà, et ça va être passionnant à suivre pour les scientifiques et pour nos auditeurs qui adorent parler de sujets d'espace, et notamment Abou à Dakar. Merci Abou d'avoir été avec nous. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu?
Tout à fait, merci à toute la rédaction des RFI.
Eh bien merci à vous Abou qui nous écoutez donc au Sénégal où il est 8h30, et merci à François Forger.